a-t-il une ou plusieurs vérités ? À l'heure des fake news, deux écrivains vont en parler. Karine Thuil pour La Décision, Abel Quentin pour Le Voyant des Tempes, à l'approche donc de la vérité. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Radiohead. Que veut dire écrire ? Et est-ce qu'écrire pour vous, et je commence par la fille, par Karine, est-ce que écrire, c'est trouver une vérité à l'intérieur de soi, ou est-ce que c'est essayer de découvrir la vérité à l'extérieur, dans le monde ?
C'est questionner, en fait. Pour moi, écrire, c'est vraiment poser des questions sans apporter de réponse. C'est vraiment une clé pour essayer de comprendre ce qui, dans la société, m'interpelle, ce qui me semble incompréhensible, en fait.
C'est-à-dire que vous observez le réel et c'est le réel qui vous donne la source de votre mouvement d'écriture.
Oui, j'essaye de comprendre le réel et de déployer non pas une vérité, parce que je crois qu'il n'y en a pas une, mais la vérité intime de tous mes personnages.
Abel Quentin, ça veut dire quoi écrire? C'est votre deuxième roman. Karine, ça fait pas mal de temps qu'on la suit, qu'on la lit et qu'on peut pas s'empêcher de lâcher ses livres. Le dernier aussi, La Décision. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez une écriture de type haletante, un peu polar, très ironique, assez acide et tonique. Ça veut dire quoi écrire?
Peut-être que je pourrais répondre à cette question dans quelques livres, après quelques livres de plus. Bah, vous avez parlé de tonicité.
Vous ne considérez pas comme écrivain?
Non, c'est vous avez parlé de tonicité. C'est vrai que ça me parle parce que pour moi, c'est aussi chercher une musique, chercher de façon très artisanale aussi, voilà, un rythme, trouver sa propre voix. Je suis très attaché à cette notion de rythme, de tonicité.
Alors le rythme, la tonicité, elles sont bien là dans la structure même interstitielle, j'ose dire, de la langue française dans ce Voyant des Tempes. Mais contrairement à Karine, qui prend comme source d'observation depuis déjà pas mal de livres, le monde contemporain axé plutôt sur des problèmes de justice et d'équité, vous avez inventé un personnage. J'étais très étonnée en vous voyant dans ce studio. Je pensais que vous aviez 67 ans au moins, que vous étiez bedonnant, que vous étiez avachi, que vous aviez le regard vide parce que un peu sous anti-anxiolytique. Ben non, vous avez quoi, 30 ans à peine?
J'ai 36 ans, j'ai pas encore l'amertume de mon personnage Jean Roscoff, mais voilà, je crois qu'avec Karine on croit au personnage, on croit au roman, et donc on n'est pas condamné, fort heureusement, à raconter inlassablement notre propre vie. On peut essayer de créer des personnages dans son des d'autres.
À partir de quoi?
À partir de l'observation. Karine parlait d'observation. Je crois que peut-être on a ça tous les deux en commun, de regarder, d'avoir cette curiosité. Alors peut-être qu'elle est déplacée, mais pour moi, être romancier, c'est quand vous êtes à une terrasse de café, laisser traîner un peu les oreilles, c'est observer les gens inlassablement, tout le temps, de façon névrotique, de façon peut-être un peu maladive.
Donc c'est vraiment l'observation, parce que Georges Perec, il passait aussi des journées aux terrasses des cafés, il en faisait des bouquins, il essayait de décrire ce qu'il voyait dans son champ et dans son cadre. Mais vous, on voit bien, Abel Quentin, à l'intérieur de votre écriture, qu'il y a des thématiques, plusieurs thématiques qui sont déployées. Il y a effectivement le portrait, et on y viendra tout à l'heure, d'un personnage qui a un âge certain, un peu comme le mien d'ailleurs. Enfin, disons qu'il a beaucoup vécu, il a eu beaucoup d'expérience, il a beaucoup de compétences, il est historien, il est universitaire, il est considéré jusqu'au jour où il va essayer de trouver la vérité d'un personnage à l'intérieur d'un texte qu'il écrit, et cette vérité va lui être violemment reprochée. Comment et pourquoi avez-vous trouvé ce personnage?
Je m'étais toujours dit qu'il y avait un potentiel comique du boomer, parce que c'est un boomer.
Ah voilà, nous sommes Jean tous Roscoff, des boomers. Et vous êtes deux jeunes face à une boomeuse qui n'est pas triste, ni coupable.
Non, bien sûr. Et moi, j'aime les boomers. Je trouve que c'est une génération qui m'émeut, qui m'agace aussi énormément. Et donc, ce personnage, il est né à la fois d'un agacement et d'une affection. Évidemment qu'il y a des tas de boomers déjà dans la littérature, mais je voulais parler de quelque chose de très précis, qui est le boomer désemparé devant un monde qu'il ne comprend plus, qui va trop vite, et qui lui explique que pour la première fois de sa vie que il a pas mal merdé aussi. Et le boomer, en tout cas mon boomer à moi, Jean Roscoff, c'est quelqu'un qui s'est toujours vécu comme étant du bon côté de l'histoire, comme étant quelqu'un de immunisé moralement, parce que il a fait la marche des beurs, il a fait SOS Racisme, et puis là, tout à coup, il y a une autre génération, c'est la génération de sa fille, qui lui dit, en fait, t'es un vieux mâle blanc, t'as rien compris, et un vieux mâle blanc cisgenre, et c'est pas parce que t'as fait la marche des beurs il y a 35 ans, tu n'en es pas moins un raciste. Et ensuite, il y a une mécanique, c'est vrai que je l'écris dans le livre, qui est la mécanique de la polémique moderne.
Alors, on reviendra sur cette mécanique et sur l'approche de la vérité qui constitue le thème obsessionnel de la recherche de ce personnage qui va se trouver en proie à des gens qui vont essayer de le tuer sur les réseaux sociaux parce qu'il a essayé de dire sa propre vérité. Mais on va pas spoiler le suspense. Karine Thuil, on a l'impression que depuis pas mal de temps, vous avez trouvé un style pour essayer de disséquer des mécaniques à base de la culpabilité, à base de la responsabilité, et que vos sources de connaissances se trouvent peut-être pas dans l'observation de la rue ou de tout ce qui peut se passer aux alentours, mais peut-être à l'intérieur des palais de justice, plus précisément, non ?
Oui, c'est l'observation, mais c'est vrai que je me retrouve aussi quand même dans ce qu'a dit Abel et dans son travail. Mais c'est vrai que moi, j'aime aussi beaucoup aller sur le terrain, c'est-à-dire enquêter, travailler quasiment comme un journaliste d'investigation, donc travailler pendant de longs mois et écrire en parallèle. Donc, j'aime beaucoup mêler la fiction et le réel. J'aime d'ailleurs beaucoup cette phrase de John Didion que j'aimais beaucoup, qui disait...
Et qui vient de disparaître.
Voilà, c'est pour ça que je l'évoque, qui disait « Vois ce qu'il faut voir et écris-le ». Et cette phrase me guide, en fait. Et j'aime beaucoup, effectivement, les palais de justice ou rencontrer des avocats, des juges, parce que ça, les dysfonctionnements de la société révèlent aussi les fractures et les failles de notre société. Donc c'est une autre façon d'aborder des problématiques. Là, enfin, je repense à ce qu'a dit Abel, il y a aussi la question du politiquement correct, de ce qui peut être dit ou pas. Et la force, je crois, de l'écrivain, c'est qu'il peut tout dire, il peut tout écrire, même ce qui est clivant, même ce qui dérange dans la société, même ce qui suscite de la polémique. Et c'est peut-être d'ailleurs le roman, l'un des derniers espaces vraiment démocratiques, puisque à travers nos personnages on peut développer toutes les idées et les assumer, puisque ce sont des personnages qui les développent.
Je vous propose d'écouter Camus, Albert Camus, dont vous parlez, Abel Quentin, à l'intérieur de ce livre, notamment dans le dernier tiers. Camus qui irrigue aussi pas mal finalement de la force de votre écriture, Karine Thuil. Il va parler de la peste, c'est une archive de la RTF du 19 septembre 1955, c'était au micro de Jean Maugin, qui s'entretenait avec lui à l'occasion de la publication de la peste, et Maugin va le questionner sur la composition, le style et l'histoire de ce roman célèbre.
J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir en somme deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles et l'autre au contraire qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. La peste est composée de cinq parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran, puisque c'est à Oran que se passe cette épidémie, et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, la peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles, le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, la peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où la peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque la peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir aussi bien que je pouvais le faire à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler.
Nous parlons de la définition de la littérature. Je vous écoute parler de votre rôle et de votre définition de l'écrivain. Et quand on entend Albert Camus qui, en 1955, définissait les enjeux de la littérature, lui qu'on a beaucoup relu à l'occasion du premier confinement, mais qu'on continue à relire, lui que les jeunes générations découvrent et lisent avec passion, lui qui, de manière visionnaire, a finalement anticipé notre présent, est-ce que sa forme de littérature et sa forme de recherche de la vérité vous parle, Karine Thuil ?
Ah oui, moi elle me parle totalement. D'ailleurs, à deux reprises dans le livre, je le cite, son engagement, sa façon d'appréhender la littérature. D'ailleurs, il m'a donné envie de relire La Peste, là, en l'entendant parler. Tout ce qu'il incarnait, en fait, ses engagements, ses prises de position, et ses réflexions aussi, voilà, qui mènent sur l'écriture, sur sa façon de travailler. Moi, L'étranger, c'est un texte que j'ai lu très tôt, à l'adolescence, et qui m'a profondément marquée, parce que je voyais bien que en apparence, c'est simple. Les phrases sont très courtes, le livre est bref, et c'est pourtant d'une intensité et d'une charge, une telle charge politique, sociale, et ça transcende tout son travail.
Abel Quentin ?
Oui, c'est un écrivain qui compte beaucoup pour moi, et c'est vrai qu'il est, comme pour Karine, il est très présent dans mon livre, parce que pour moi, c'est l'écrivain de la nuance, c'est l'homme révolté contre la révolution, si je veux un peu caricaturer et opposer Sartre et Camus. C'est vrai qu'il y a, moi dans mon livre, j'ai voulu faire un personnage très camusien, c'est-à-dire qui doute toujours, et c'est une posture qui est inconfortable. Camus a vécu dans cet inconfort, je crois, toute sa vie, et pour moi, c'est le vrai intellectuel, au sens quelqu'un qui se méfie absolument du système, du dogmatisme. Pour ça, il a été attaqué, par Sartre notamment, mais il a été incompris. Et j'ai voulu qu'il y ait dans le livre, c'est vrai, un hommage à Camus qui a notamment dit en 48 cette phrase très très belle: « Celui que j'insulte, je ne connais pas la couleur de ses yeux ». Je crois qu'elle résonne dans notre époque, qui est une époque de l'invective, de l'injure. Elle résonne avec une force toute particulière. Elle est très belle. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et cette phrase de Camus, à l'ère des réseaux sociaux, des tribunaux médiatiques, elle prend une coloration toute particulière.
La considération de l'autre, c'est aussi un des thèmes de votre livre, Abel Quentin. C'est comment, effectivement, on peut être brûlé sur les réseaux sociaux, déshonoré intellectuellement, complètement avili, vilipendé, mais jusque dans son honneur intérieur, de par une attitude intellectuelle qu'on considère comme juste et légitime, qui est le fruit d'un certain travail. Alors cette histoire de considération, cette histoire de non-respect de l'autre, comment la jugez-vous, vous, aujourd'hui ?
Elle est terrible, elle est partout, cette non-considération. Et je crois que Camus, c'est aussi une éthique de la conversation, c'est une éthique du débat. Pour moi, le débat, il y a une notion de sportivité dans le débat.
Et de l'échange, du dialogue, voilà. Donc de la reconnaissance de l'autre.
De la reconnaissance de l'autre. Et aujourd'hui, avec l'anonymat notamment, qui est la règle sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a perdu ce sens-là. Et que moi, c'est quelque chose qui me fait peur, et c'est ce qui va broyer mon personnage, Jean Roscoff, parce qu'en fait, il est jugé par des gens qui ne le connaissent pas, qui voient en lui une sorte de punching ball, comme ça, qu'on peut frapper à loisir. En fait, c'est aussi un homme, c'est un homme qui a une fille, c'est un homme qui est complexe, c'est un homme qui fait parfois des erreurs, et puis parfois essaye de se corriger, et c'est toute cette épaisseur-là que nie ceux qui le prennent pour cible, qui l'injurient, qui le traînent dans la boue.
Il y a un élément qui est intéressant, Karine, aussi, dont parle Abel dans son livre, c'est l'idée qu'on doit penser contre soi. Et ça aussi, c'est le mal de notre société. Les gens ne veulent plus penser contre eux-mêmes, ils veulent du prêt-à-penser. Et la vraie démocratie, le vrai débat, c'est justement de penser contre soi-même. Et votre personnage essaye tout le temps, il essaye même de penser ce qui lui arrive. Il essaye de comprendre, on le voit bien, même dans les relations entre sa fille et sa petite amie, il essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre dans cette société, pourquoi on l'invective, pourquoi d'autres lui reprochent certaines paroles. C'est très intéressant parce que c'est ce qui malheureusement manque de plus en plus à notre société.
Penser contre soi-même, Karine Tuile, c'est aussi une des thématiques de votre livre, La Décision. Comme le titre l'indique, la décision, elle est très difficile à prendre. Et vos personnages, notamment la juge et l'avocat, vont passer leur temps à essayer de sous-peser leur décision, à échanger de manière contradictoire leur rapport au monde, qui n'est pas le même. Comment arrive-t-on à prendre une décision? Que veut dire l'équité? Est-ce que c'est une forme de débat mental? Et je reviens à ce qu'on a entendu d'Albert Camus tout à l'heure sur la dernière partie de la peste, qui est peut-être la partie la plus belle, la plus philosophique de Camus, c'est-à-dire la solitude du personnage. Est-ce que pour parvenir justement à prendre une décision, il faut s'isoler en soi-même et ne plus... ne rien attendre de la rumeur des autres?
C'est toute la complexité du travail de cette juge, Alma Revel, parce qu'elle doit prendre ses décisions seule. Alors, dans le service antiterroriste, ils sont souvent en binôme, heureusement, pour prendre ses décisions. Donc, elle doit décider dans le livre, soit de placer quelqu'un sous contrôle judiciaire, donc il sera libre, soit de le maintenir en détention. Et puis, dans sa vie privée aussi, puisqu'elle se demande si elle doit ou non mettre un terme à son mariage vieux de 25 ans. Et là, c'est une décision qu'elle n'arrive pas à prendre seule. Donc, on la voit consulter une médiatrice, enfin, tenter de trouver une aide extérieure. Et je trouvais ça assez fascinant, cette notion de décision, en particulier quand on prend des décisions qui vont avoir un impact, pas seulement pour soi, mais finalement même au niveau de la sécurité nationale. Quand on est juge d'instruction antiterroriste, si on libère quelqu'un et que cette personne va commettre un attentat 2 heures après, il y a une part de responsabilité très grande.
Vos deux livres se lisent avec passion, on ne peut pas les lâcher parce qu'il y a une mécanique d'écriture, il y a une méthode d'écriture qui fait que par la composition même, par le style, par le tempo, eh bien, on ne peut pas s'arracher. On continue, ça s'appelle le livre addict. Vous avez réussi tous les deux, chacun à votre manière, à composer des ouvrages qui ne se lâchent pas. Alors, c'est peut-être un style du temps, parce que vous faites partie de la jeune génération des écrivains, mais en lisant vos deux livres et de manière différente, j'ai pensé à un grand artiste qui écrit des livres que nous lisons avec passion sans pouvoir les lâcher. Je vous propose d'écouter la voix de Georges Simenon.
Lorsque j'ai commencé à écrire les romans, j'ai essayé de donner en même temps, dans le même chapitre, ou dans le même livre, ou quelquefois dans la même page, du présent, du passé et du futur.
Nous vous souhaitons un agréable voyage.
C'est-à-dire, à donner cette sensation de vie permanente. Et ce qui arrivera même, ça alors c'est ce qui trouble le plus mes traducteurs anglais, parce que c'est très difficile à rendre en anglais, c'est qu'il m'arrive dans une phrase d'employer le présent et l'imparfait, par exemple, dans la même phrase. Je sais que c'est parfaitement incorrect, je reçois des lettres de grammairien me soulignant mon incorrection, mais c'est voulu. Et c'est une chose, ça, qui avait très fort impressionné Gide, et qui disait que c'était probablement ce qu'il y avait de meilleur et l'apport le plus original qu'il y avait dans mon style. C'était d'avoir obtenu ce mélange des trois temps.
Mélange des trois temps, qualité de l'intrigue, caractérisation des personnages, atmosphère brumeuse... Quand on relit un Simenon, on est en plein bonheur, parce que c'est aussi un grand écrivain de la littérature française et un grand grammairien, contrairement à ce qu'il vient de dire. Mais vous, chacun dans votre genre, vous avez développé un style d'écriture qui fait que on ne sait pas si on est dans l'observation de la réalité ou si on est dans un mélange entre la fiction, la réalité et l'observation. Mais en tout cas, vous êtes des écrivains contemporain. Je veux dire par là que vous saisissez, comme vient de le dire Simenon, l'intensité du présent, de notre présent. Karine Thuil, avec ce nouveau livre, La Décision, vous continuez ce que vous faites déjà depuis, je crois, 2 décennies, mais de manière encore plus aiguë, de manière encore plus bouleversante, parce que à travers ces 2 personnages, il y a l'affrontement de toute une société qui ne peut rien dire, mais que vous allez finalement mettre en scène. Est-ce que le style est aussi important que la nature, entre guillemets, de votre scénario?
Oui, le style est très important. On commence Un livre, c'est pas un sujet, c'est vraiment une forme, c'est une voix.
Chez vous, c'est aussi des sujets de société, mais c'est un livre.
Mais qui s'impose progressivement, en fait, c'est presque le hasard. C'est-à-dire, je réfléchis pas à un sujet. En fait, ça naît souvent de rencontres. Alors, ça peut être de lire un article de presse, oui, mais ça peut aussi être une rencontre avec quelqu'un. Et puis, peu à peu, le livre s'impose. Mais c'est vrai que la recherche d'une voix, hein, tout à l'heure, Abel le disait, un écrivain, c'est aussi une langue, une voix, un univers. Et là, j'avais envie à la fois d'explorer le jeu, d'être dans l'intimité, dans la tête de cette juge d'instruction antiterroriste, d'être au plus près de ses interrogations, mais aussi d'essayer d'approcher à une sorte de vérité intime, même si c'est sa vérité, d'un homme qui serait parti en Syrie, et d'intégrer des interrogatoires. J'aime beaucoup intégrer dans mes romans justement des pièces un peu plus techniques pour casser aussi le rythme romanesque. Et j'essaye de créer des points de rupture pour que chaque livre ait sa forme. Par exemple, pour l'invention de nos vies, c'était des phrases très longues avec des barres obliques. Ça crée une très grande, je crois, tension. Et c'était ma façon de raconter.
À chaque livre, son style,
la pression
en fait.
Sociale. Voilà, à chaque livre, son style.
Et les choses humaines, c'était plus interrogatif, plus méditatif, plus problématique.
Exactement, et c'était une forme indirecte. Je racontais vraiment le destin d'une famille bourgeoise confrontée à une accusation de viol. Mais là, on est dans l'intimité de cette juge, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'approcher à la question, grande question de la condition humaine et comment on l'appréhende.
Alors, La condition humaine, c'est le titre d'un livre magnifique d'André Malraux. Est-ce que c'est une source pour vous, une figure tutélaire, Malraux ?
Oui, Malraux, tous ces grands écrivains qui ont nourri mon adolescence. Malraux, on a cité Camus, et puis aussi les grands écrivains réalistes comme Zola et Balzac qui racontaient leur société, il y avait toujours une charge effectivement politique importante dans leurs livres.
Et si mais non, et le côté polar de vos livres à chaque fois, Karine, ça vient d'où ?
Moi, c'est vraiment, ça n'est pas conscient. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne pense jamais au lecteur. Et je suis sincère. J'écris pour moi. J'écris un texte. Je passe des heures avec mon livre et il faut que ça me plaise. Le lendemain, que j'ai envie de me remettre à ma table de travail et que je me laisse porter. J'ai une écriture assez visuelle parce que j'aime bien me représenter les scènes ou, comme je l'ai dit, enquêter. Mais je me dis pas, là, il faut créer du rythme ou là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ça m'est assez naturel. Et je saurais pas, en fait, expliquer pourquoi.
Abel Quentin, quand on vous lit, on pense à une partition de jazz. C'est-à-dire que par moments, c'est assez lent et puis tout d'un coup, ça accélère. Mais il y a aussi un rythme, un ordre des chapitres qui fait que, exactement comme Karine, on peut pas lâcher votre livre.
C'est vrai que j'aime bien les accélérations et les décélérations. C'est quelque chose que j'essaye de faire, d'avoir des moments comme ça très... Les choses s'accélèrent et puis des pauses, des moments plus lents, ouais, c'est vrai. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Karine, moi j'ai quand même l'impression qu'elle pense pas mal au lecteur parce que j'aime beaucoup.
Mais pourtant, je te dis, c'est assez étrange, mais non, quand j'écris, je ne pense pas du tout au lecteur.
Mais en tout cas, peut-être à chacun sa lecture de Karine Thuil et de Abel Quentin. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical, je crois que c'est d'Abel, c'est les Ramones.
Let's go!
On peut dire qu'à l'intérieur de vos deux livres, la justice est un point commun, l'approche de la vérité en est un autre, et aussi la contestation de l'unicité de la vérité. La vérité, elle était une et indivisible. La vérité, on pouvait l'obtenir, soit par une démarche philosophique personnelle, soit par une approche scientifique de ce qu'on voudrait savoir, soit par une possibilité de comprendre la réalité, de faire accord avec soi-même. Or, vos deux livres résonnent très étrangement par rapport à ces fake news qui abondent sur les réseaux sociaux, par rapport à la définition même de la vérité qui est dans les dictionnaires les plus célèbres. Fake news est entré comme une ouverture justement contestant l'unicité de la vérité. Qu'est-ce que la vérité pour vous, Abel Quentin ?
Je crois qu'un romancier, il se méfie de ce mot. Moi, la vérité, la pureté, toutes ces choses-là, c'est quelque chose dont je me méfie, comme ça, de façon peu atavique. Et c'est des mots dangereux. Ensuite, bien sûr que la vérité scientifique, par exemple, elle existe. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui battue en brèche. Et c'est vrai que dans l'espèce de bruit moderne, parce que notre modernité, elle a un bruit très particulier, elle a un bruit qui est pas le même qu'il y a 25 ans, par exemple, et ben dans ce bruit-là, il y a notamment, c'est vrai, les fake news ou les vérités alternatives. Je pense que le roman doit parler de ça. Il faut, avec Karine, voilà, je pense qu'on a ce souci-là aussi d'essayer de décrire un peu cette cacophonie avec des gens qui ne s'alimentent plus à une seule source d'information ou à quelques sources d'information. Aujourd'hui, on est dans une société atomisée. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Jérôme Fourquet, L'Archipel français, qui décrit ça, quoi, qui décrit une société où chacun a ses propres canaux d'information, et c'est dangereux.
La vérité, Karine ?
Moi, c'est un sujet qui m'a passionnée quand j'ai écrit ce livre, parce que le but du juge d'instruction, c'est la manifestation de la vérité. Ce sont les termes de sa fonction. La manifestation de la vérité, c'est quoi la vérité ? Moi, j'aimais bien cette phrase de Nietzsche qui disait « il n'y a pas une vérité, mais que des perspectives sur la vérité ». Et c'est vrai qu'en travaillant sur ce sujet, on voit comment des conceptions, des vérités s'opposent. Et notamment comment la juge, quand elle mène ses interrogatoires avec ce jeune homme de retour de Syrie, elle l'entend développer sa propre vérité qui est un prêt-à-penser, que lui ont inculqué des idéologues et qu'il finit par un peu recracher comme une leçon apprise par cœur. Et pareil avec son mari, elle est mariée à un homme qui a fait un retour au judaïsme et qui lui aussi recherche une nouvelle fois une forme de vérité à travers cette réappropriation de lui-même, ce qui vient d'un monde juif orthodoxe, et il fait ce fameux retour, donc il y a ce retour à la foi. Donc il y a aussi la notion de vérité dans ce rapport à la foi, hein, celui qui pense détenir la vérité. Et cette juge doit au quotidien aussi essayer de toucher à une forme de vérité intime. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Abel. Moi, je me méfie aussi beaucoup, et c'est sans doute notre point commun dans nos livres aussi. On voit bien que nos personnages se méfient de la pureté, de la morale, une sorte de vision binaire de la société, le bien, le mal. Je pense que tous les deux, nous croyons à la nuance et à l'ambiguïté.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est comme d'habitude, d'ailleurs dans vos livres précédents, mais il y a une caractérisation encore plus poussée, psychologique, de vos deux personnages principaux. Et on s'aperçoit que le personnage de la juge, est-ce parce que c'est une femme, je ne sais pas, mais c'est parce qu'elle met en question sa propre vérité sur sa propre vie, la manière dont elle envisage sa vie, amoureuse et aussi en tant que mère, qu'elle peut-être traverser toutes les idées un peu propagandes d'une certaine vérité judiciaire pour se faire son intime conviction. Est-ce que ça va ensemble, ça ?
Bah oui, moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de saisir les personnages au moment où ils vacillent, au moment où ils sont dans un état de fragilité. Et le fait de la placer en difficulté dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, la plus de vie intime avec son mari, ils s'entendent plus, ça lui donne, je crois, une certaine épaisseur humaine. Et quand on la voit dans son travail, soumise à ses décisions, on perçoit d'autant plus sa fragilité quand il s'agit de prendre des décisions qui engagent la vie d'un homme ou d'une femme, parce que c'est pas anodin d'incarcérer, de laisser quelqu'un en prison. C'est quelque chose qui hante le livre aussi, hein. C'est pas seulement les états d'âme de la juge au quotidien, mais c'est aussi l'idée que chaque décision que vous allez prendre va avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre.
À l'intérieur du livre de Karine Thuil, Abel Quentin, il y a un avocat. Il est beau, il est séduisant, il est assez dragueur, il est un peu mélancolique, bref, ils vont tomber amoureux. Certains disent que vous êtes le modèle de l'avocat du livre de Karine Thuil, car, puisqu'on parle de vérité, vous ne vous appelez ni Abel ni Quentin. Pourquoi ? Et vous êtes avocat dans la vie aussi.
Je peux quand même dire que c'est pas lui.
Ah, ouais, bah non, vous nous cassez le suspense.
Merci.
Non, parce que c'est terrible.
Merci Karine, là on parlait de fake news tout à l'heure, on était là, c'est on est en plein dedans.
Abel, non.
Mais non, Abel Quentin, oui, c'est mon nom de plume, mais je crois que je suis pas le premier ni le dernier écrivain à choisir un nom de plume. C'est une tradition qui existe depuis un certain nombre de temps. Les gens choisissent pour des raisons qui leur sont personnelles. Et c'est vrai, mais c'est vrai que oui, je suis avocat et donc j'ai lu aussi la décision comme lecteur, mais aussi comme avocat. Et j'ai été très très impressionné par le travail de documentation. Il y a vraiment un souci. Voilà, on parlait d'artisanat. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Enfin, je veux dire, un livre, on n'est pas traversé par les muses. Enfin, surtout quand on est dans cette veine réaliste, quoi, qui nous est commune, ça veut dire rencontrer des gens, les interviewer, aller voir des audiences. Et ce que je disais tout à l'heure à Karine, c'est qu'à mon avis, elle pourrait avoir une équivalence et le diplôme d'avocat, parce que c'est après les choses humaines, on est à nouveau dans ce monde judiciaire et c'est un monde qui est. On peut assez facilement mal le décrire. Et moi, je trouve que. On a des personnages d'avocats, de juges qui sont complexes. Après, je pense que tous les juges n'ont pas les scrupules d'Alma Revel. C'est d'ailleurs tout un problème. Il y a des Alma Revel. Il y a des juges qui ont ce souci-là de penser contre eux-mêmes, qui sont traversés par des affreux de doutes quand ils prennent une décision. Puis il y en a d'autres aussi qui sont, et c'est humain aussi, hein, qui, au bout d'un moment, bascule dans quelque chose de mécanique. D'ailleurs, elle le dit, je crois, on est dans le roman, elle veut surtout pas devenir ça, ce robot-là. Voilà, donc les deux existent.
Alors, dans ce livre, Karine Thuil, il y a effectivement l'affrontement idéologique entre cette juge et cet avocat. Il y a un avocat qui est plutôt, justement, pour une croyance en l'avenir des détenus et la possibilité de rachat, pour le dire assez brutalement. Et puis, il y a une juge qui est beaucoup plus prudente et qui se pose beaucoup de questions parce que, hélas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alma est une juge antiterroriste, donc elle baigne dans la violence depuis des décennies et des décennies et elle connaît le mécanisme de propagation, de la contamination, de l'adhésion à l'islamisme et elle va balancer entre les deux. Est-ce que ça, c'est un état d'âme que des juges avec qui vous avez parlé connaissent très souvent ? Est-ce que cet esprit, justement, volontaire d'indécision avant de prendre la décision juridique est constitutif de notre droit et de notre croyance au droit aujourd'hui ?
Oui, ils ne veulent pas céder à une gestion mécanique de leur dossier. Alma, c'est une femme qui veut conserver quand même ce sens de l'altérité. Elle sait les implications qu'une décision peut avoir. Donc, il y a ce souci. Enfin, moi, j'ai eu avec les juges que j'ai rencontrés, j'ai senti qu'ils avaient ce souci de garder une forme d'humanité, de rendre une décision juste. Elle le dit à un moment, rendre une décision injuste, c'est ce qu'il y a de pire. Mais après, il y a évidemment aussi, comme le disait très bien Abel, des conceptions différentes, des affrontements. D'une certaine façon, même si vous essayez d'être neutre, il y a aussi vos convictions politiques, votre histoire personnelle. Elle raconte, on l'appelle la juge rouge, elle raconte que son père était proche de Pierre Goldman, c'était un militant d'extrême gauche, donc elle a arrive évidemment dans cet univers avec sa force de conviction. Et puis lui, Emmanuel Forest, l'avocat, il est dans son rôle, il est dans son rôle d'avocat de la défense. Donc ses arguments, évidemment, visent à obtenir la libération de son client. Il est résolument du côté de son client. D'ailleurs, à un moment, je cite Jean-Denis Brodin qui disait que c'est le rôle de l'avocat d'être aux côtés même du pire d'entre nous. Et c'est ça aussi, ça, c'est une notion qui m'a toujours beaucoup fascinée, parce qu'il y a souvent des débats quand il y a des procès terroristes, par exemple, des gens qui disent « Mais comment cet avocat peut défendre cette ordure, ce monstre ?» Mais en fait, c'est son rôle. Il est avocat de la défense, c'est normal qu'il défende même la pire crapule. Sinon, on n'est plus dans un état de droit.
Abel Quentin.
Je veux dire qu'il y a aussi quand même un élément biographique dans la vie d'Alma Revel, ce personnage, c'est que son père a été incarcéré. Et ça, à mon avis, ça fait quelque chose. Enfin, l'incarcération du père, ça fait forcément un juge, à mon sens, exceptionnel. Parce que, il y a d'ailleurs une citation d'un juriste dans le livre qui dit un magistrat, il devrait toujours, quand il prononce une peine de prison, la compter en secondes et en minutes et non pas en années, c'est-à-dire en prendre toute la mesure. Et en fait, l'habitude, le quotidien d'un juge, tout ça conspire à faire qu'il perde cette mesure-là. Parce que si vous faites ce métier toute la journée, au bout de 20 ans, vous pouvez commencer à ne plus compter ces minutes-là. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle fait et c'est quelque chose d'assez rare.
Comment travaillez-vous dans le quotidien avec les juges, vous, en tant qu'avocat? Est-ce que ce sont des rapports qui sont pour vous essentiels pour l'approche de la vérité, pour la défense des personnes que vous défendez?
Moi, c'est des rapports professionnels, donc... il y a toujours, c'est sûr qu'il y a une distance hein, dans notre pays qui se crée entre les avocats et les juges. Il y a parfois même de la défiance. Il y a vraiment une grande diversité d'exercer ce métier. Et donc le juge d'instruction, c'est vrai que c'est ce personnage qui a longtemps fasciné la littérature. Crime et châtiment, il y a ce juge d'instruction dont j'ai oublié le nom imprononçable qui est absolument génial. Et a raison, parce que c'est un personnage à la fois très puissant, très solitaire, et donc il y a une grande diversité de façons d'exercer ce métier. Et voilà, moi je me souviens d'un grand juge d'instruction qui était quelqu'un un peu à la Audiard, qui était très humain, à la fois qui connaissait très très bien ses dossiers, qui s'appelait Baudouin Thouvenot. Voilà, c'est les gens qui m'ont marqué, puis il y en a d'autres qui sont... Qui n'ont pas cette humanité-là, qui n'ont pas qui ne voient plus un être humain quand le mise en examen s'assoit devant eux.
Sur quoi va se fonder, Karine Thuil, la décision ultime de faire que cette personne qui est inculpée va pouvoir ou non être libérée? Parce que dans votre livre, on ressent presque physiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une écriture très visuelle, donc c'est vrai que nous, lectrices et lecteurs, on voit ce que vous décrivez. On voit pas les expressions des visages des personnages que vous avez inventés, mais on les ressent physiquement, mentalement et psychiquement aussi. Et on a l'impression d'un rapport égal entre le juge d'instruction et l'avocat. Or, quand on entend Abel, qui dans sa vie professionnelle est avocat, on a plutôt l'impression que l'avocat dépend du juge.
Oui, l'avocat dépend du juge, et d'ailleurs il lui dit à un moment, que l'avocat, c'est un métier où on est humilié en permanence, alors qu'elle, elle a un rapport d'autorité,
c'est pas faux.
Et elle a le pouvoir. En fait, dans le livre, leur rapport paraît un peu plus égalitaire, parce qu'ils ont une liaison, en réalité, et effectivement, ça la fragilise, même si elle essaye de s'en détacher, on voit bien que ça finit par la contaminer un petit peu cet amour qu'elle porte à cet homme.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Robert Badinter.
Toute vie, en effet, toute vie, comme c'est le cas pour tous les droits de l'homme, toute vie a la même valeur, on doit toujours rappeler, toujours, que les droits de l'homme sont universels et indivisibles, et que les tortures infligées à un être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, ou la peine capitale, c'est la même négation des droits de l'homme, quel que soit celui qui l'a subi. Vous savez, moi je me rappelle toujours de ce que dit encore le secrétaire général des Nations Unies. Ça, quand on évoquait le culturalisme, le différentialisme culturel, vous avez vu, bien, en effet, il y a des différences culturelles. Mais vous savez, quand je vois une mère africaine ou un père asiatique dont le fils a été torturé, exécuté, ou la fille violée, assassinée, je n'ai pas besoin de leur expliquer ce que sont les droits de l'homme. Ils le savent beaucoup mieux que moi. Et c'est ça la vérité.
Nous vivons une période un peu bousculée dans tous les sens du terme, bousculée avec un état d'urgence en raison de la pandémie, bousculée au niveau des droits de l'homme. On va rentrer en campagne présidentielle. On vient d'entendre ces mots, je trouve, très importants de Robert Badinter, qui reste une figure tutélaire très importante, je crois, pour parler de droit, de justice et du respect des vivants. Pensez-vous que la période est compliquée pour l'état de droit à Belcantin?
Oui, c'est certain. Enfin, on est une période où des lois d'exception deviennent la norme. Donc voilà, il y a l'état d'urgence sanitaire, mais il y a aussi le contentieux antiterroriste. C'est la normalisation de mesures d'exception. Donc on comprend pourquoi le législateur en arrive à là, mais c'est évidemment dangereux parce que aujourd'hui c'est par exemple pour les lois antiterroristes, c'est des gardes à vue de 144 heures, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à 144 heures si je me trompe pas, c'est des détentions provisoires qui sont systématiques et on accepte ces choses-là sans parfois peut-être prendre la mesure que c'est quand même au prix de liberté. Mais ensuite, les questionnements de la juge Alma Revel dans le roman de Karine, on les comprend parce qu'il y a aussi un impératif de sécurité. Et puis il y a une période. Il y a une période qui fait qu'on a besoin d'efficacité. Je comprends pourquoi le législateur a aussi dû prendre des mesures à la hauteur des événements, quoi.
Efficacité judiciaire en ces périodes troublées, Karine Thuil, au mépris de la liberté?
Bah, hélas, au lendemain des attentats de 2015, comme elle le dit elle-même, on a incarcéré beaucoup, y compris des jeunes, par peur justement de passage à l'acte, parce que on a tout d'un coup dû faire face à une violence et une barbarie sans précédent. Et évidemment, comme l'a dit Abel, ça a été un surcroît de sécurité, parfois au mépris des libertés individuelles, en sachant que le risque zéro n'existe pas non plus. Mais c'est une réalité d'aujourd'hui, en fait.
Merci infiniment à tous les deux. Alors, je vais citer la phrase d'Albert Camus qui clôture votre livre, Karine Thuil, parce qu'elle est plus qu'intéressante à remémorer en ce moment. Elle est tirée donc de L'homme révolté. Albert Camus écrit ceci: « L'enfer n'a qu'un temps, la vie recommence un jour ». Merci infiniment à tous les deux pour vos deux très beaux livres. Donc l'un s'intitule « La décision » et vient de paraître aux éditions Gallimard. Et l'autre, signé Abel Quentin, « Le voyant des tempes », c'est aux éditions de l'Observatoire.
Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, oh yeah. Des chantiers, oh yeah. Je survolerai des chantiers, oh yeah. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays. Avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins. J'irai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent et ma vie est à terre. Mon ventre est sur la pierre où je ferai ma tombe.
C'est avec Laurent Barden et Tigre d'eau douce ainsi que Bertrand Belin pour leur chanson Oiseau que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Karine Thuil. La décision vient de paraître chez Gallimard. Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, édition de l'Observatoire. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin, Marie Clément. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Et merci à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka pour la suite de son Very Good Trip.